J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le con qui a fait ça, c'était le bon.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et voilà, on se retrouve dans nos studios de Radio Grand Air. Ben oui, c'est un petit peu aussi l'habitude de la maison, c'est de se déplacer soit à la brèche, ou soit au studio, ouais. Tout simplement.
C'est
chouette. Et ça fait plaisir de te retrouver ici dans les murs de Radio Grand Air. Comment ça va?
Bonjour
Pascal.
Bah, ça va très super bien avec cette belle semaine, ce beau soleil.
Effectivement.
On se croira encore en vacances.
Et nous sommes toujours en vacances pour aller au cinéma et c'est toujours un plaisir de te retrouver pour nous parler des rendez-vous de la brèche.
Exact. Mais alors bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
C'est important.
De Radio Grand Air, bien sûr. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 81 d'Entracte.
T'as vu la réverbe?
C'est vrai que la réverbe n'est pas la même. C'est marrant, hein. Moi, je m'entends différemment.
C'est ça?
Oui, oui. On se croirait... ouais.
Ouais, c'est différent.
À la télé.
Eh bien, écoute, on va parler bien sûr des nouveaux rendez-vous cette semaine à la brèche. Petite sélection, mais costaud, hein, ma foi.
Alors, oui, j'ai fait une petite sélection parce qu'effectivement, cette semaine, on reprend beaucoup de films dont j'ai déjà parlé.
Ouais.
Alors, évidemment, on va pas revenir dessus. Hein. Donc, pour essayer de meubler un petit peu la reste, je vous ai trouvé quelques petits papiers dans la presse, des choses qui m'ont fait un petit peu bondir, mais ça, c'est normal, c'est fait pour la presse aussi, hein. C'est fait pour réagir. Mais notamment en ce qui concerne Napoléon.
Voilà, ah oui, très bien, ouais, c'est l'événement ouais, du mois de novembre. Ouais, hein.
Ça va être l'événement du 22 novembre, bien sûr, donc je vous bassine un petit peu avec, mais bon, c'est vrai, il y a plein de choses intéressantes à en tirer, même avant la projection. Hein. Donc, j'y dirai quelques papiers dans la presse qui sont plutôt pas mal.
Très intéressant.
Donc, qui m'a fait beaucoup rire, c'est pour ça qu'on va en parler tout à l'heure.
Ouais.
Alors cette semaine, oui, évidemment, j'ai trois films.
Ouais.
Et pas des moindres, mine de rien. On va parler du dernier film de Jean-Pierre Améris, que j'aime beaucoup. On en a déjà parlé, j'ai fait son portrait même une fois, il me semble, il y a assez longtemps. On va parler de Marilyn et son juge.
Absolument, avec un duo formidable. On en reparle bien sûr dans quelques...
De Michel Blanc et de Louane, oui.
Chanteuse Louane qui revient.
On va parler aussi d'un film qui vient d'assez loin et qui, on va dire, qui casse les codes un petit peu de la grosse industrie de science-fiction. Donc, c'est le film dont je te parlais tout à l'heure, hors antenne, hein, surtout avec les moyens qui étaient employés pour le faire, c'est-à-dire pas beaucoup, avec 3 francs 6 sous. Alors, c'était pas franchement 3 francs 6 sous, mais ils se sont débrouillés pour que ça coûte le moins cher possible. Et le résultat est complètement épatant.
Et bluffant. Ouais.
Voilà, tu as vu le teaser?
Absolument.
Voilà.
J'ai l'impression des grosses productions américaines.
J'ai vu aussi, ouais, quand j'ai vu le teaser, je me suis dit, quelle grosse machine encore. Et bien non, c'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire. Et je dis bravo parce que je crois que c'est vraiment un exploit.
Un exploit c'est dans une belle leçon
du cinéma. Oui. The Creator de Gareth Edwards. Et pour terminer, j'ai choisi évidemment
une équipe de jeunes.
Scott Vaux, ouais, évidemment. Les vieux qui reviennent dans l'opus numéro 4 des Expendables.
Ouais.
Les Expendables, pour les Français.
C'est ça, ouais, c'est Monsieur Muscle.
Voilà, alors là, évidemment. Il fallait trouver le personnage de la semaine dans tous aussi.
Ouais. Bon. Alors je crois qu'il y a eu un petit papier il n'y a pas longtemps à la télévision. J'ai vu passer un reportage sur l'acteur. Fort intéressant.
Sur lequel veux-tu parler?
Ton invité.
Mon invité, évidemment. Et, là, donc, dans le cadre de la sortie Expendables 4, j'ai choisi Sylvester Stallone.
Ouais.
Grosse carrière.
Ouais. Pour tous ceux qui ne pensaient pas que l'artiste réussisse un jour, n'avait pas mis un euro au départ hein, pour le début de sa carrière, notamment pour le premier titre.
De Rambo ? Non, Rocky.
Rocky, ouais.
Ah non, mais avant, il a commencé bien avant.
Ah mais je sais.
Il a fait tu sais qu'il a commencé par le film érotique quand même.
Ah, alors ça, je ne savais moi.
Mais si.
D'accord.
Ses débuts au cinéma, c'était ça. Ouais. Il a fait prof de gymnastique au lycée américain de Genève. Après, il est revenu au cinéma, enfin aux États-Unis. Et là, effectivement, on l'a embauché pour un film. Oui, les talons italiens. Et l'étalon italien, ça lui colle dans Rocky.
Eh oui.
On l'entend dire ça. Uh-huh. Mais c'est un vrai film.
Ah ouais.
C'est un vrai film dans lequel il l'a joué.
D'accord.
En érotique. Bon. Hein. Pas X.
Il faut préciser. Donc,
c'est quand même assez marrant. Alors évidemment, Sylvester Stallone, franchement, il a connu une carrière en montagne russe.
Ouais.
Ça marche pas. Il y a des films qui n'ont même pas été distribués. Mm-hmm. Mais j'en y croyais pas. Il s'est ramassé sur d'autres productions. C'est revenu, c'est redescendu. Enfin, tu vois, il a une carrière, on va dire, assez chaotique. Regarde, à la fin, il fait des séries. Je sais pas si t'as regardé un petit peu. Alors, moi, je les ai pas vues, hein, mais j'ai vu les titres. Des séries La famille Stallone, saison 1, où tu sais, c'est de l'immersion dans la baraque et tout. Ça colle bien, on va dire, avec les émissions de télé-réalité de notre époque. Hein, ça se fait beaucoup, ça. Donc, voilà, tu vois, il a participé à ça. Donc, ça veut dire que bon, ouais, c'est... ta carrière cinématographique n'est pas super
mais ce qu'on disait tout à l'heure quand même, hein. Pascal, effectivement dans le film créateur petit budget,
ouais,
et ça a été le cas pour lui au départ hein, quand il a joué notamment dans Rocky, le premier Rocky,
ouais.
Et pas grand chose en budget,
ouais.
Les budgets ont évolué avec le succès, le franc succès qu'il y a eu pour le premier volet, ouais. Mais enfin en tout cas il a commencé à galérer hein,
ouais. Le film est chouette hein.
Et le film est
franchement,
chouette
même si t'es pas amateur de boxe, c'est vachement bien filmé,
ouais.
Et tout le monde s'en souvient de Rocky,
avec son jogging.
Ah ouais, sur les marches. Je crois que c'est, je sais pas de quel monument de Philadelphie, parce qu'il est originaire de Philadelphie.
Ah, exact.
Sylvester Stallone. Donc, non, c'est des films. Mais tu vois, les films, des fois, à petit budget, qui sont distribués, je dis pas souvent, mais peuvent des fois réserver de bonnes surprises, parce que justement, les mecs se sont défoncés au niveau de la prise de vue, le script, tout ce que tu veux, quoi. Parce que justement, il n'y avait pas d'argent. Il fallait que ça rentre, il fallait que ça boucle le projet. Et je me demande si c'est pas comme ça, des fois, parfois, dans ce genre de situation où tu n'es pas le plus inventif.
Mm-hmm.
Il faut trouver des ressorts, il faut trouver plein de choses innovantes, quoi. Et je trouve que ça stimule, on va dire, la création. Et je trouve ça très chouette.
Ouais.
Et c'est vrai que Rocky, quand t'avais Rocky 1, tout le monde est allé voir Rocky 2.
Ben oui.
Tout le monde est allé voir Rocky 3, je veux dire, ça cartonnait dans les
films. Puis il y avait aussi ce qui accompagnait ces séries, c'était aussi la musique, hein, qui était relativement excellente.
La musique, exact.
Survivor, L'œil du tigre.
C'était vrai, ouais. Et Living in America, de James Brown.
Ah, oh, c'est excellent.
Et tu sais d'ailleurs que c'est ce film-là qui a relancé la carrière de James Brown.
Oui, absolument.
Qui était dans le trou, il était limite, je crois que je me demande s'il n'a pas fait un peu de tôle.
Oui, il y a eu quelques petits soucis avec la justice.
Oui, surtout avec sa femme, qui l'a fort malmené. Voilà. Donc, on va revenir tout à l'heure à ce film à petit budget. Donc, c'est vrai qu'on faisait référence à The Creator.
Eh bien, on va commencer notre nouvelle émission, ton émission Entr'acte, avec notamment un film français qui réunit à l'écran Michel Blanc et Louane notamment.
Marilyn et son juge, de Jean-Pierre Améris. Donc, c'est un film français d'une heure 43, c'est une comédie dramatique. Hein. Au niveau des acteurs, on va retrouver Louane Emera, Michel Blanc, Victor Belmondo.
C'est un cousin,
Ce n'est pas un cousin, parce qu'il est tout jeune.
Ah, mais c'est le fils alors, petit-fils.
Non, hein. C'est le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, absolument.
Très bien.
Qui lui a fait des études et tout dans le cinéma. Il débarque pas comme ça.
Il n'est pas pilote automobile, lui, non, pas encore.
Il n'est pas pilote automobile, non, pas encore. On va retrouver Philippe Rebaud, très bon acteur aussi. Tape sur Internet, tu vas le reconnaître. Et Fabien Giamiluca. Alors c'est l'histoire de Marilyn, 20 ans, qui est une serveuse énergique et bruyante. Sa rencontre avec un juge bougon et déprimé qui l'engage comme chauffeur va bouleverser sa vie. Voilà un drôle de sujet, très humaniste à chaque fois, hein, tu sais, Jean-Pierre Améris, hein, il aime bien les rapports des personnages qui s'opposent. Donc à l'origine de Marilyn et son juge, il a la lecture du roman « Changer le sens des rivières » écrit par Muriel Magellan et paru en 2019. Elle a été scénariste sur certains films de Jean-Pierre Améris, comme La joie de vivre, Une famille à louer, Profession du père. Le réalisateur donc se confie. J'ai tout de suite reconnu ces personnages comme étant de la famille de mes films, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les petites gens, dont je me sens proche et dont j'essaye de montrer la grandeur. Et voilà toute la force du cinéma de Jean-Pierre Améris. c'est que justement, oui, il va chercher ce qu'on appelle, oui, les petites gens, les gens qui font pas de bruit. Ouais. Et il va les chercher, il va les mettre devant le projecteur pour nous les montrer. Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Jean-Pierre Abiris, que j'ai dit une fois, j'ai rencontré, j'ai adoré discuter avec lui. Et c'est quelqu'un de profondément humain et de fort sympathique. Donc Marilyn, l'héroïne, n'a pas été épargnée par la vie, mais elle a en elle une pulsion de vie très forte, une joie de vivre. J'aime ce genre de personnage féminin, qui a des difficultés, mais qui bataille. Et le personnage de Juge est proche de moi, un peu solitaire, un peu réservé. La rencontre avec Marilyn va le délivrer. Donc je me suis reconnu dans ce thème du déterminisme social. Je veux croire qu'on peut, comme le titre de ce roman, changer le sens des rivières. Cette phrase d'Alain Souchon vient de la chanson « Les yeux d'Ava Gardner ». Oh,
ah, très belle chanson.
Très belle chanson d'Alain Souchon. Et c'est un peu mon expérience, car je viens d'un milieu où rien ne me prédestinait à faire du cinéma, et je m'étonne toujours d'avoir pu croiser le cinéma et d'en faire. Cela aussi est au cœur du film. C'est un éloge de la rencontre, une histoire dans laquelle les deux personnages vont s'apporter beaucoup l'un à l'autre. Alors pour le look du juge, donc Jean-Pierre Améry, c'est, voyez, un dessin de Sampé pour le costume.
D'accord.
Tu sais, c'est le truc très générique. Un homme avec son imperméable, son cartable et son parapluie. Et c'est vrai qu'on, oui, on reconnaît les dessins de Sampé. Donc on le voit très bien sur l'affiche, ce petit homme et cette fille plus grande que lui, avec sa mini-jupe, ses cheveux roses, ce prolétariat anglo-saxonne. J'aime que mes films soient comme dessinés. Ils sont réalistes, mais pas si naturalistes que ça. C'est quand même un peu stylisé, souvent très coloré. Donc pourquoi le choix de Louane Emera? Alors Jean-Pierre Améris a pris l'habitude d'écrire plusieurs versions de ses films. Et c'est au bout de la quatrième que Louane Emera lui est apparue dans le rôle de Marilyn. Et le metteur en scène avait souvent vu la chanteuse comédienne à la télévision et bien sûr dans La Famille Bélier en 2014. Et
2014, oui. Il ne faut pas oublier, Pascal, qu'elle avait reçu d'ailleurs un César du meilleur espoir féminin en 2015.
Ah, oui, ah d'accord.
Tu ne savais pas?
Non, je ne savais pas du tout. Non, tu m'apprends des choses, mais c'est bien, on est là pour apprendre plein de choses. C'était pourquoi? En 2015. Meilleur espoir féminin
C'était pour,
La Famille Bélier.
Ah oui, absolument, ah, pour le film.
Ah, oui, pour le même film, d'accord. Mm-hmm. Et donc, il se rappelle. Dès que je l'ai eu en tête, cela nous a aidés. Marion Michaud, la scénariste, et moi, a dessiné son personnage un peu comme une petite sœur d'Erin Brockovich. Donc, j'adore l'Angleterre. Et ce type de filles habillées avec ce genre de dégaine qui ne se rendent pas compte que lorsqu'elles entrent dans un café, tout le monde les regarde et qui sont en fait des cœurs tendres. Je ne les connaissais pas du tout. On organisait la rencontre dans un excellent restaurant de poissons sans savoir qu'elles ne mangent jamais de poissons. Honnêtement, moi qui n'ai pas d'enfant, si j'avais une fille, j'aurais aimé que ce soit une fille comme elle. J'aime son courage et sa sincérité. Elle est juste, elle est en place. Elle n'a pas du tout pris la grosse tête. Elle est vraiment généreuse. Elle m'a beaucoup donné. Donc par souci d'authenticité, Jean-Pierre Améris a assisté à beaucoup de comparutions immédiates au tribunal du Havre. Donc j'ancre dans le réel, mais j'apporte un tout petit décalage aussi. Je n'appose aucune idéologie, mes personnages ne représentent pas leur classe. Je montre, je ne prêche pas. Mais je fais des films dans lesquels je sais de quoi et de qui je parle. Je sais ce que je raconte. Donc évidemment, Victor Belmondo fait partie du casting. Donc Victor Belmondo incarne le copain qui rêve de cinéma. Je ne voulais pas en faire un personnage à charge, donc c'était très délicat. Victor dégage quelque chose de très élégant, très fin. Il a une vraie grâce, une grande spontanéité. Il est très cinéphile dans la vie, il a vu beaucoup de choses, mais il ne la ramène pas. Il n'a rien à prouver. Il est sincère tout le temps, précise Jean-Pierre Améris. Comme quoi, il s'entoure vraiment de gens vraiment très simples, tu vois, qui s'effacent facilement, tout ça. Je trouve ça vraiment touchant. Donc Jean-Pierre Améris, donc côté musique, a travaillé avec un superviseur musical qui lui a fait écouter 60 morceaux sans lui donner le nom des compositeurs. Et le cinéaste se souvient. Je revenais tout le temps au même morceau, du même compositeur. J'aimais son humeur, sa couleur. Il avait travaillé sur des courts-métrages et des séries, et ce film, c'est son premier long-métrage. J'avais aussi, dès le scénario, pensé à cette chanson de Julien Clerc, « Les séparés », sur un poème de Marceline Desbordes Valmore. Un très beau texte sur le deuil. Donc, pour Louane sur Marilyn, donc j'ai tout de suite, comme il nous dit, aimé son côté ingénu et la maturité qu'elle prend au fil du film. C'est un personnage paradoxal. Elle est à la fois légère et profonde, drôle et émouvante, capable de plein de choses, mais dans l'inconscience de ses capacités. Elle est dans une dualité constante jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'à la fin, elle s'épanouisse et se prenne en main. Et cette dualité m'a donné Donc le sentiment de jouer plusieurs rôles à l'intérieur d'un seul. Marilyn ne connaît pas ses capacités. Elle n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie et cette rencontre avec ce juge va tout changer. Il va devenir pour elle comme un père spirituel et grâce à lui, elle va changer le regard qu'elle porte sur elle-même. Elle va se considérer autrement. Quelle belle expérience de vie. Tout simplement. Et c'est pour ça que j'adore les films de Jean-Pierre Améry parce que c'est très touchant.
Avec, bien évidemment, tu l'as dit, deux acteurs, Michel Blanc, qui joue un rôle très très important. Il y a aussi central dans ce film, puis Louane, qui est une actrice qui donc s'est fait remarquer en 2014 et qui n'a pas cessé de continuer, voilà. Effectivement, qui a du talent.
Et Victor Belmondo va découvrir.
Bien sûr.
Alors j'ai vu sa photo, c'est vrai qu'il a un peu du Belmondo, c'est vrai.
La souche.
Même si le petit-fils, il a quand même gardé un peu de son grand-père là, là-dessus.
Eh bien, on va.
Marilyn et son juge à découvrir la brèche cette semaine. Moi, je vous invite vraiment chaudement, hein, parce qu'il faut venir voir les films de Jean-Pierre Améry. C'est toujours un enchantement. Jamais de ma carrière, j'ai vu un film de Jean-Pierre Améry où les gens se retiennent en disant c'est quoi ce truc? Non. Oui. On est pris par quelque chose. Il y a toujours un fil humain, un conducteur là-dedans qui est vraiment émouvant.
On va retrouver sur votre radio un extrait de la BO, la bande-annonce, en tout cas, de ce film tout de suite.
Mais Marilyn, ça va pas du tout.
Pourquoi tu m'as pas rappelé?
Mais tu vois pas qu'on a rien en commun là? Qu'est-ce que tu fais là?
Embrasse-moi.
Arrête là.
Est-ce agréable d'être quitté? Non. En frappe-t-on son prochain pour autant? Je ne crois pas.
Monsieur le Président?
C'est monsieur le juge.
Je sais pas comment faire pour payer les dommages et intérêts. Pourquoi personne me donne jamais ma chance?
Y en a qui disent que la chance, ça se provoque.
C'est pas vrai, c'est une phrase de riche ça.
T'as besoin d'argent? Moi j'ai besoin d'un chauffeur pendant un mois.
J'ai de la conversation et je suis toujours de bonne humeur.
Bah évite la bonne humeur.
Mais à quel moment ces deux notions atteignent une forme de symbiose?
Qu'est-ce qui te fait rire?
Symbiose? C'est quoi ce mot?
Tu regarderas. Intéresse-toi, cultive-toi.
Quand on veut, on peut. Ça aussi, c'est une phrase de riche.
Donc les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Remarque, ça doit être reposant de penser comme ça.
Vous avez quelqu'un, en fait. Elle est hyper belle, en plus, hein. Faites-moi confiance.
Quoi?
Je connais peut-être pas grand-chose, mais je m'y connais en fille. Vous étiez tellement en symbiose.
T'as tout pour réussir. Redresse la tête, saute la barrière.
Je comprends pourquoi tu l'aimes beaucoup.
Mais j'ai jamais dit ça.
Ah ouais.
Voilà, découvrir cette semaine à La Brèche, Louane, Victor Belmondo, on l'a dit, et bien sûr Michel Blanc pour ce rôle de juge, en tout cas, et qui sert de chauffeur. Hein.
Oui, Louane sert de chauffeur, ou juge,
Voilà, Marilyn et son juge, donc, à découvrir cette semaine à La Brèche, à Sainte-Foy-la-Grande. On va changer de décor, on va se plonger en immersion, on va dire, dans la science-fiction. Ouais. Et c'est bluffant, on le disait en début d'émission.
Oui. L'image est bluffante, la mise en scène aussi, je pense, parce que bon, j'ai pas encore vu le film, mais je pense que franchement, c'est un film qui va sortir du lot. Alors, The Creator, on va parler de l'intelligence artificielle. Quels dégâts peut-elle occasionner dans un futur proche? À l'époque contemporaine, on se pose quand même beaucoup de questions. Alors évidemment, l'intelligence artificielle, elle a déjà envahi nos vies.
Oui.
Et oui.
Le
petit pod qu'on met chez soi là, comme moi j'ai vite débranché entre parenthèses le comment ça s'appelle, Siri, tu sais, tu lui demandes tout en fait.
Ah oui, d'accord. Oui.
C'est ça l'intelligence artificielle, donc elle te répond et tout, elle te raconte même des blagues, donc je trouve ça effrayant. Il y a un côté effrayant là-dedans. Voilà. Moi, l'intelligence artificielle, moi, je la conçois, on va dire, quand je suis allé chez des amis, il n'y a pas très longtemps, il y avait un robot dans la maison. Ben oui, celui-ci, il balayait et nettoyait le sol. Bon.
Tant qu'il fait que ça.
Franchement, mais c'est aussi de l'intelligence artificielle. Il rentre à la maison, il va se recharger, il repart, on lui a mis des points de GPS. Bon, là, ok. Mais quand c'est... Il commence à dire, l'intelligence artificielle dans les entreprises, on va dire pour superviser, voire éliminer, on va dire, de la main-d'œuvre, bon, ça, c'est pas très malin, on va dire. C'est parce que déjà, on prive des emplois. Après, ça peut aller jusqu'où? C'est-à-dire que mettre de l'intelligence... Ils étudient aussi de l'intelligence artificielle dans des robots de l'armée, tu vois, avec des flingues et tout. Bon, là... Ouais, on est dans Terminator.
Ouais.
On y est là déjà. Si déjà l'armée commence à imaginer des droïdes, alors déjà, on a commencé déjà à se battre avec des robots. Regarde le conflit ukrainien, russo-ukrainien. Bon, mm-hmm. mais c'est la guerre électronique. C'est la guerre des drones, c'est tout ça. Quoi. Là, ça reste, c'est pas terrible. Quoi. Donc, on se pose des questions. Là, je crois que l'humain est à un carrefour, de l'utilisation. Faut-il l'abrider? Faut-il interdire certains domaines? Il y a plein de questions qui se posent. Et justement, The Lost Creator, c'est la question. Donc, c'est un film, américano-britannique de 2h13, un science-fiction, drame, aventure de Gareth Edwards. Alors, c'est pas un petit nouveau, Gareth Edwards, attention. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même une bonne paire d'épaules parce que en 2010, il a réalisé Monsters. En 2014, Godzilla.
Ah oui, d'accord.
Et oui. En 2016, Rogue One, The Star Wars Story. Donc, déjà, il maîtrise ces sujets-là, ces univers-là, ces décors-là. Donc, au niveau des acteurs, moi j'ai bien aimé parce que ce sont des lustres inconnus. Et ça me plaît bien. Je l'ai dit encore la semaine dernière, je le dirai toujours.
Ouais.
C'est chouette.
Ça porte un petit plus. Hein.
Ah oui, mais carrément. Parce qu'il n'y va pas avec des têtes d'affiche en disant regardez, venez, parce que j'ai tel ou tel, comme d'autres films.
Et puis, un gros avantage, hein, ça coûte moins cher. Hein.
Alors, ça coûte moins cher, mais je trouve que c'est quand même vachement plus agréable aussi de ne pas retrouver toujours aussi les mêmes acteurs.
Non, c'est sûr.
Hein. Donc, au niveau des acteurs, on va retrouver John David Washington, Jemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuma Voice, Allison Johnny, Alimar Shalda Patel et Mark Menchaca. Donc, dans un futur proche, humains et intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci. Soldat américain infiltré en Asie, Joshua est repéré et séparé de sa femme Maya, au cours d'un assaut. Supposant que celle-ci est décédée, il rentre aux États-Unis complètement dévasté. 5 ans plus tard, l'armée lui demande de revenir sur le terrain, craignant qu'une puissante intelligence artificielle n'ait créé une arme qui permette à l'Orient de gagner la guerre qu'elle livre à l'Occident. Sentant son utilisation proche, elle souhaite qu'il la trouve et la détruise. Lorsque la colonelle Jean Howell apprend à Joshua que Maya est peut-être en vie et qu'elle se trouverait dans une zone de combat, celui-ci trouve soudainement un nouvel enjeu dans cette mission qu'il avait tout d'abord acceptée à contre-cœur. Cependant, peu après son arrivée en Asie, il découvre que l'arme en question n'est autre qu'une petite fille de 6 ans, prénommée Alfie. Ça a un côté effrayant et super sordide. Mais moi, j'adore le scénario. Le scénario est très très bon, je trouve.
Oui.
Donc, quand la réalité rattrape la fiction, évidemment, ce créateur met en exergue les bénéfices, aussi bien que les dangers de l'intelligence artificielle. Gareth Edwards explique « L'actualité de ce film est surréaliste. Alors qu'on développe ce projet depuis des années, il sort à un moment où le monde affronte plusieurs problèmes qu'on souhaitait soulever dans ce film. Qu'est-ce qui singularise l'être humain par rapport aux autres êtres vivants ? L'IA peut-elle, alors l'intelligence artificielle, peut-elle avoir une conscience, sans compter d'autres questions éthiques ?» concernant l'intelligence artificielle et l'humanité. Je crois vraiment que la science-fiction n'est jamais aussi puissante que lorsqu'elle explore ces questionnements. Et il ajoute, ce film par un extraordinaire coup de chance aborde précisément ces enjeux. L'IA est-elle réelle? Quelle est son importance? Faut-il accepter ou au contraire, faut-il la détruire? Ces questionnements traversent le film et reflètent une actualité brûlante. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on est en plein dedans. Hein. Donc au niveau des références, donc Gareth Edwards c'est dit s'être inspiré du film Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad et d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola pour l'univers du film. Très bonne référence.
Oui.
Mais aussi de Baraka, Blade Runner et Akira. La relation centrale entre Joshua et Alfie s'est encore nourrie de sources d'inspiration plus attendues comme Rain Man.
Très bien.
Grand film. The Heat.
Très bon.
Très grand film. E.T. l'extraterrestre. Et la
Spielberg.
Barbe à papa. C'était Spielberg, ouais, la barbe à papa. Donc, évidemment, c'est un fan de science-fiction, évidemment. Donc, après Monsters, Godzilla, Rogue One, Gareth Edwards signe un nouveau film de science-fiction avec The Creator. Une passion pour le genre qui le suit depuis l'enfance. Et comme il nous dit, quand j'étais petit, la plupart des films que j'allais voir au cinéma étaient des blockbusters originaux. Tous les mois, j'ai découvert un nouveau chef-d'œuvre de science-fiction, comme s'il tombait du ciel grâce au dieu du 7e art. Des films dont les images et les personnages continuent de me hanter même après plusieurs dizaines d'années et à nourrir mon imaginaire pour le restant de mes jours. Je me souviens plus de l'âge que j'avais quand j'ai vu Star Wars pour la première fois, mais c'est comme si ce film existait depuis toujours. Cette découverte était presque une expérience mystique. Oui, quand on est jeune, quand tu prends ce genre de film dans la tronche, dans une salle de cinéma, oui, ça laisse des traces. Et d'ailleurs, c'est là que commence ta culture cinématographique. C'est avec tes premiers films. Hein. Ceux d'après, on va dire, 10, 20 ans après, peut-être un peu moins, mais vraiment les premiers, ils te forgent.
Ah oui, ça marque.
Ils te forgent avec cet univers. Ouais. Et surtout là, évidemment, là, c'est le monde de la science-fiction, évidemment. Il est arrivé quoi ? Oui, comme il dit, Blade Runner, c'est
avec Harrison Ford, je crois.
Harrison Ford, exactement. Tu vois, Apocalypse Now. Je crois qu'il était interdit au moins de 12 ans, entre parenthèses, il me semble, il y avait des interdictions pour ce film-là. Oui. Ben voilà, c'est vraiment de grands films, et qui n'ont pas été surpassés, d'ailleurs, entre parenthèses. Je veux dire, ils appartiennent à leur époque, et je me demande qui pourra faire mieux dans ce genre de réalisation. Donc, enfant, Gareth Edwards a passé des vacances avec sa famille en Asie. En vue de ce voyage, son père avait fait l'acquisition d'une caméra vidéo pour immortaliser leur séjour. Et comme il nous dit, dès l'instant où celle-ci a été achetée, je ne l'ai plus lâchée et j'ai filmé chaque moment de notre périple à travers les mégalopoles de Hong Kong, Bangkok, sans oublier les plages tropicales et les jungles de Thaïlande. Ce voyage m'a considérablement marqué et était totalement nouveau pour moi. Je n'avais aucun point de repère dans ces civilisations, qu'il s'agisse de la signalétique ou des publicités. J'avais le sentiment d'être un parfait étranger et cela m'a beaucoup plu, se souvient le réalisateur. Donc au niveau de la genèse du film, donc, une fois Rogue One achevé, Gareth Edwards a eu besoin de faire une pause et a entrepris un périple en voiture avec sa petite amie pour aller voir ses parents dans l'Iowa. Alors qu'il traversait donc, les champs du Middle West, le réalisateur a été surpris de voir au milieu des fermes une étrange usine portant un logo japonais. Il s'est demandé ce qu'on pouvait y fabriquer. Étant fan de science-fiction, j'ai aussitôt pensé à des robots. Imaginez que vous soyez un androïde fabriqué dans cette usine. Que vous n'ayez jamais connu que cet environnement, qu'un jour quelque chose dysfonctionne et que vous vous retrouviez pour la première fois à l'extérieur, contraint de partir à la découverte du monde et du ciel. Si cela arrivait, que se passerait-il ? Il tenait là le début d'un scénario dont il avait presque toute la trame une fois arrivé chez ses beaux-parents. C'est très rare, je l'ai interprété alors comme un signe positif et je me suis dit que c'était peut-être mon prochain film. Voilà comment est né The Creator. Dans les plaines du Middle West, dans une mauvaise usine avec un logo japonais.
Excellent.
Quoi, voilà la création. Et je crois que The Creator, c'est aussi lui.
Ben oui.
Tu vois, c'est aussi lui, parce que ça, il fallait le pondre. Hein. Il n'y a aucune référence à quoi que ce soit. C'est simplement à la vue de cet tas de ferraille rouillé et qu'il a créé son film. Donc une fois la trame de The Creator en tête, le réalisateur s'est attelé à l'écriture des scénarios. Une étape qu'il déteste et qu'il considère comme une vraie corvée. Pour y venir à bout, il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel en Thaïlande. C'est là que son ami, donc Jordan Von Vogt Roberts, qui était au Vietnam et qui a mis en scène Kong, Skull Island, très bon film, entre parenthèses, lui a proposé de venir le voir. Ils ont passé une semaine à sillonner le pays. Gareth Edwards se souvient. Comme avec l'écriture du script, j'étais dans un état d'esprit créatif, mon imagination était totalement débridée. Je me suis mis à visualiser de gigantesques structures futuristes qui surgissaient des rizières ou à envisager de fascinantes questions spirituelles que pourrait se poser un moine bouddhiste qui, en réalité, est une intelligence artificielle. Ça me fascinait. J'étais enthousiaste à l'idée d'un récit à la Blade Runner situé dans le Vietnam que je découvrais. Tu vois, il y a quand même des inspirations de l'Apocalypse Now dedans, tu sais. En plus, quand il a dû se balader dans les rizières, oui, ça a dû le faire aussi.
Ouais.
Moi aussi, hein, quand j'ai parcouru le Vietnam, j'y ai beaucoup pensé.
On y pense, hein, ouais.
J'y ai beaucoup pensé. Donc c'est un film indépendant, ultra ambitieux. Donc Gareth Edwards a commencé sa carrière avec Monster, un film de SF, à tout petit budget. Il s'est ensuite frotté aux grosses productions avec Godzilla et Rogue One. Avec The Creator, il voulait créer une œuvre de SF originale, mais était conscient de la difficulté à financer un tel projet. Et pour y parvenir, il a décidé de faire un long métrage modeste, mais au style visuel fort. Il a contacté le producteur de Monsters et a essayé de lui expliquer qu'on ne tournait pas un blockbuster à petit budget, mais le film indépendant le plus ambitieux jamais produit.
Exemplaire.
De la conviction, toujours.
Ouais.
Et de l'audace.
C'est ça.
Donc The Creator a été produit à l'envers, comme l'explique le réalisateur.
Ah bon ?
C'est ça qui est chouette.
Il est parti de la fin.
Oui. En général, avec un blockbuster, on commence par se réunir avec les artistes et à imaginer tout l'univers. On se rend compte ensuite qu'on ne peut pas trouver les lieux de tournage nécessaires et qu'on doit construire de gigantesques décors en studio et tourner entièrement sur fond vert. Et c'est vrai que ça, c'est la ritournelle. Hein. Comme je ne voulais pas d'un tournage pareil, on a tout fait dans l'autre sens et posé nos caméras dans de véritables pays, en décors réels, avec de vrais acteurs. C'est une fois le film monté que je comptais me réunir avec les chefs de poste et peindre sur les plans pour créer l'univers de science-fiction. Tu vois un petit peu le cheminement. Hein. Les studios étaient sceptiques et le pari avait l'air un peu délirant. Ainsi, le film a été tourné dans le dénuement le plus complet permettant au département artistique d'imaginer les décors en phase de post-production. Des repérages donc se font de courts-métrages. Alors, pour convaincre les dirigeants de New Regency de sa démarche, à savoir tourner un film à petit budget au style visuel ambitieux, Gareth Edwards est parti avec son producteur, Gene Spencer, et des caméras en Asie du Sud-Est, fin 2019, pour tourner un court-métrage. Et comme il nous dit, on s'est rendu sur les meilleurs lieux de tournage au monde pour chaque scène. James Clyde, l'un de nos chefs décorateurs, a peint sur les images et, par bonheur, Industrial Light and Magic a accepté d'ajouter tous les effets pour que cela ait une valeur de test. On a fait tout cela extrêmement rapidement et pour beaucoup moins d'argent que le résultat à l'image ne le laisse présumer. Le studio a été époustouflé, on a obtenu son accord et on est parti en tournage, révèle le réalisateur. Moi, je te tire mon chapeau. Parce que ça, il fallait le faire. Donc pour concrétiser la vision de Gareth Edwards, la production a parcouru plus de 16 000 km et sillonné 80 lieux différents dans 8 pays. Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Népal, Japon, Indonésie, Royaume-Uni, donc au studio de Pinewoods dans les environs de Londres et aux États-Unis à Los Angeles. Donc le directeur de la photographie, Greg Fraser, a mis au point un système de prise de vue révolutionnaire et ultra léger pouvant adopter plusieurs configurations pour permettre Gareth Edwards de tourner avec efficacité et obtenir une image de très haute résolution. Ce dernier détail, on a utilisé une caméra de cinéma Sony ultra légère, extrêmement sensible à la lumière, qui permet de filmer de nuit avec la lune comme seul éclairage. Bon là, je ne dis pas l'ouverture de la focale, elle doit coûter une fortune. Ça, je te le dis en tant que photographe. Autrement dit, on pouvait se passer des gigantesques spots habituels qu'on voit souvent sur les plateaux de cinéma. Certaines lampes LED étaient si petites et ultra légères qu'on n'avait pas besoin de les accrocher sur un pied. L'éclairagiste pouvait les fixer par exemple à la perche du preneur de son. Du coup, l'éclairage s'adaptait instantanément au déplacement des comédiens. Sans avoir à perdre plusieurs heures par jour à transporter un matériel lourd et encombrant. Donc, il en a été de même pour les effets visuels réalisés par ILM. Les acteurs ont pu tourner sans combinaison de motion capture et sans avoir besoin de marqueurs déposés un peu partout dans le décor.
Ah oui.
Donc pour la petite Alfie, âgée de 6 ans, dans le film est générée par l'intelligence artificielle, la production a engagé la débutante Madeleine Yona Voiles. Et comme il nous dit, on a reçu des centaines et des centaines d'enregistrements d'enfants du monde entier. Maddie était la toute première qu'on ait auditionnée. Dès qu'on l'a rencontrée, elle a été extraordinaire. Elle m'a ému aux larmes. Quand elle est repartie, j'ai jeté un œil à mon assistant et on s'est tous les deux, exclamé « C'est elle !» se souvient le réalisateur. Voilà, j'ai fait un gros papier sur ce film parce qu'il le méritait.
C'est intéressant.
Parce que
ouais.
C'est une drôle d'invention. Et je pense que ce genre de process qui a économisé beaucoup d'argent, impossible à chiffrer, va faire des émules. Et j'espère qu'il fera florès et que ça sera un cas d'école.
Exactement.
Un cas d'école.
Ouais, c'est vrai.
Donc bravo à toi.
On va y écouter un extrait de la bande annonce hein, de ce film Creator à découvrir cette semaine à la Brèche.
Quand la guerre a commencé, ils m'ont protégé. Ils ont pris soin de moi encore mieux que des humains.
Ce sont pas des personnes, Maya. C'est juste un programme.
Il y a 10 ans aujourd'hui, une ogive nucléaire a été lancée sur Los Angeles par l'intelligence artificielle conçue pour nous protéger. Il s'agit d'un combat pour notre propre survie.
Sergent Taylor, la victoire est à portée de main. Mais les IA développent une arme surpuissante. Exécutez-la. Et nous disparaîtrons.
C'est une gamine.
Toi, tu vas y aller au paradis?
Non. Il n'y a que les personnes gentilles qui y vont.
On est pareil. On ne peut pas aller au paradis parce que toi, t'es pas gentil. Et moi, je suis pas une personne.
T'as une idée de ce que c'est?
Pour l'instant, on dirait une gamine, mais elle grandit. Ceux qui auront l'enfant remporteront la guerre.
T'es dans quel camp, hein?
Oh,
robot soit enfin libre.
Oh, je crois pas qu'on ait ça en magasin. T'aimes les glaces, je parie.
On va parler d'un autre rendez-vous, c'est le retour de...
Plus basique,
ouais. Mais peut-être aussi efficace, hein, pour, parce qu'un fan club, hein, forcément,
ouais.
Des gros bras, on va retrouver un Sylvester Stallone en très grande forme finalement, hein. Il est toujours là pour
toujours là.
Nous faire plaisir dans ses films d'action.
Il prend de la bouteille, mais il est toujours là, voilà.
Oui, c'est vrai.
Pour le spectacle, c'est pour le spectacle.
Ouais.
Parce que quand j'ai lu le script...
Avec son béret.
Ouais, ils sont bérés toujours. Parce que quand j'ai lu le script, je me suis dit, tiens, d'habitude, il fait deux lignes, là, il fait une ligne et demie.
D'accord.
Une ligne et demie. Expendables 4. Donc, Expendables 4. Film américain d'une heure 43, action thriller. Alors, il va être interdit au moins de 12 ans.
Là, ça va saigner un petit peu.
Ça va saigner un petit peu. De Scott Vok. Au niveau des acteurs, et évidemment, à chaque fois, ils reposent sur quoi, ces films-là ? J'allais dire sur le script, non, du tout. C'est une grosse bêtise. Non, sur le casting.
Ouais.
Sur le casting. On va retrouver Jason Statham.
Très bien.
Sylvester Stallone, évidemment. Andy Garcia.
Andy Garcia ?
Oui, oui.
Ah bon ?
Qu'on a vu dans Ocean Eleven, tu vois.
Ouais.
50 Cent. Le rappeur. Megan Fox. Dolph Lundgren. Randy Couture. Et Tony Jaa. Alors voilà le script. T'es prêt ? Une ligne et demie, attention, top chrono. Nouveau membre, nouveau style, nouvelle tactique pour ce nouvel opus explosif. Voilà, maintenant vous en savez tout. Vous savez tout.
Merci pour ces détails, Pascal.
Moi j'étais là, alors c'est pas moi. Hein. Je me dis, bon, quand même, j'ai trouvé un petit peu léger. Je vais faire un petit papier à côté parce que vous voulez aller chercher d'autres infos pour éclairer nos chers auditeurs et auditrices.
Alors c'est le quatrième volet des aventures de super-héros. Hein.
Ah oui. Donc qui joue le méchant ? Il y a toujours des méchants. Non, en fait, c'est très binaire. Hein.
Ah ouais.
Les méchants, les gentils.
Ouais.
Les gentils, les méchants. Donc qui joue le méchant ? Iko Uwais incarne le méchant du film. Il prend ainsi la relève de Eric Roberts, Jean-Claude Van Damme et Mel Gibson. Mel Gibson a succombé. Hein.
Ah oui.
Le comédien de 38 ans est un redoutable combattant et artiste martial chevronné. Il a impressionné le monde entier dans le diptyque The Raid en 2012 et 2014 avant de rejoindre Hollywood. On l'a notamment vu dans 22 Miles avec Mark Wahlberg et Snake Eyes et le spin-off de G.I. Joe. Donc 50 Cent, évidemment, il est de la partie. Donc en 2010, 50 Cent a été pressenti comme pour jouer Hail Caesar dans Expendables Unité Spéciale, un rôle qui est revenu à Terry Crews. Il campe dans Expendables 4 un certain Easy Day. A noter que la star de hip-hop a déjà tourné avec Stallone dans la trilogie carcérale Évasion. Donc alors, en 2014, lorsque le projet en était à ses débuts, Sylvester Stallone voulait voir Jack Nicholson et Clint Eastwood en méchant. Ouais, excellent. Jack Nicholson, que deviens-tu ?
Oui.
Je te lance un appel, je ne te vois plus sur les écrans.
The Joker ?
Oh, ouais, ça remonte, hein, tu te rends compte ? C'est, voilà, je trouve ça dommage. Peut-être s'est-il fâché avec le cinéma. Donc, il était aussi question de Pierce Brosnan qui prenne part au film. Pareil, Pierce, où es-tu ? Je ne te vois plus dans mes radars.
Ah oui, c'est vrai, ouais.
Donc, qui réalise ? Après Sylvester Stallone pour Expendables Unité Spéciale, Simon West pour Expendables 2 Unité Spéciale, Patrick Hughes pour le numéro 3, c'est Scott Vok qui prend le relais en réalisant le quatrième. On lui doit entre autres Need for Speed. Un projet de longue date, alors un projet d'un quatrième opus consacré aux Expendables a émergé début 2014 avant même la sortie du troisième film et il était question d'en faire une conclusion de la franchise. Ah ah ! Ça sera peut-être le dernier ? Toutefois, en 2017, Stallone annonce qu'il quitte le navire en raison de divergences artistiques avec la production. Finalement, un an plus tard, les choses se concrétisent. Il y a peut-être besoin d'argent.
Je pense, ouais. Je pense. Effectivement, oui. Il y a du réfléchir.
Les impôts, eh oui. Toujours. Arnold Schwarzenegger ne revient pas, par contre. Hein. S'il était de la partie dans les trois premiers volets, Schwarzenegger ne revient pas dans ce quatrième opus. Le comédien interrogé par Parade est revenu sur son absence. Et comme il nous dit, c'est tourné et je ne suis pas dedans. Quand j'ai dit à Stallone, on l'a fait et j'en ai fini. Et maintenant, il a vraiment compris. J'ai fait le premier Expendables pour faire une faveur à Sly. Et on a tourné rapidement un samedi pendant 2 heures dans une église avec Bruce Willis. Et Sly m'a dit, oh, tu pourrais faire le deuxième. Et je l'ai fait pendant un week-end. Ensuite, il y a eu le 3. Mais on refera quelque chose ensuite un jour. Centré sur Statham, évidemment, contrairement aux trois précédents films, ce quatrième opus est centré sur Lee Christmas, le personnage incarné par Jason Statham. Et Stallone avait d'ailleurs expliqué à la fin du tournage du quatrième qu'il passait le relais à Jason Statham et ses mains expertes, et que ce quatrième volet sera son dernier. Donc sorti en 2010, Expendables, unité spéciale, avait rapporté environ 268 millions de dollars dans le monde pour un budget estimé à 80 millions. 2 ans plus tard, le second opus a généré 312 millions pour un coût de production de 100 millions. En 2014, le troisième marque une baisse significative, avec 209 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 90. Bon les gars, l'argent rentre quand même, hein, on va pas se plaindre. Hein, dire, c'est... Donc voilà, c'est quoi, c'est du spectacle, c'est...
Ah oui.
Il y a toujours du too much dedans, ça pète dans
de l'action.
Voilà.
Une armée de mercenaires. Qui vont défendre le monde.
Ils vont châtier le méchant.
Voilà, c'est ça. Et peut-être relever quelques défis que certains n'ont pas pu lever, effectivement.
Voilà.
Le dernier rempart, en fait.
Oui, avant que le monde s'écroule.
Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a Dolph Lundgren qui avait joué notamment dans Rocky.
Dolph Lundgren, peut-être.
Oui, c'était un des boxeurs américains, le blond là.
Le blond.
C'est assez costaud, mais qui luttait contre.
Il jouait pas le russe ?
Oui, c'est ça.
C'est lui qui avait le russe.
Oui, absolument. Ouais.
Oh, ok. Voilà, Dolph Lundgren, ok.
Le copain de Sylvester Stallone.
Eh bien, ouais, tu m'étonnes, ils étaient potes, ils se connaissent plus longtemps en plus. D'accord. Expendables 4.
À voir absolument.
À la brèche cette semaine.
Pour voilà. Moment explosif. Hein.
Voilà, si vous voulez du spectacle, du spectacle. C'est tout simplement.
Allez-y,
c'est,
ouais.
C'est le film américain par excellence. Hein. Comme on en voyait plein avant. Hein. Quand tu allais voir du Rambo, des choses comme ça, tu étais dans la même schématique. Hein. Mais Rambo, il était quand même pas mal, on va dire. Il est orienté aussi, c'était contre le vilain Vietcong, le vilain russe.
Oui, ça tournait un peu.
Il fallait changer un petit peu quand même.
Alors on va parler.
On va parler
d'un.
On va parler d'un peu de presse.
D'un sujet intéressant.
Ouais, je reviens sur Napoléon. Je vais vous bassiner comme j'ai dit tout à l'heure avec Napoléon. Mais il sort plein de papiers dessus. Moi j'aime bien. J'aime bien les picorer et puis c'est permis aussi de préparer aussi.
Toujours intéressant. Ouais.
Les papiers qui vont suivre. Donc c'est au sujet de Joaquin Phoenix. C'était compliqué. C'était compliqué pour Joaquin Phoenix de d'endosser la redingote grise et célèbre. Un personnage de l'histoire de France qui a marqué
vaste personnage
déjà qui a marqué l'histoire évidemment par sa singularité évidemment mais aussi le monde aussi entier hein. Faut savoir souvent on le traite de tyran tout ça de massacreur de tout ce que tu veux mais en attendant il faut savoir une chose c'est que les batailles de Napoléon sont étudiées dans beaucoup d'académies militaires et dans West Point entre parenthèses hein. Il y a des innovations dedans moi je vous invite à vous plonger pour ceux qui sont fans on va dire vraiment de stratégie militaire appliquée. Vous avez un petit site sur internet qui s'appelle Bataille de France. Franchement, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais c'est très très bien fait. C'est très très bien fait. Donc vous allez comprendre un petit peu comment s'organisent les armées sur le champ de bataille, comment on engage telle ou telle unité, comment on se préserve aussi de l'ennemi, comment on économise des hommes. Faut savoir que Napoléon a gagné des batailles rien qu'en faisant marcher ses armées.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Il a gagné ses batailles et des bottes. C'est pour ça qu'il était vraiment très très à cheval sur les chausses et les bottes de ses soldats, ouais, parce que c'était son fer de lance. Hein. Donc il y a aussi ce côté-là. Il y a aussi ce qui a fait le succès de ces batailles, juste pour faire une petite parenthèse très rapide, c'est la création des corps d'armée, la création de polytechniques. Mm-hmm. Alors c'est quoi un corps d'armée ? Un corps d'armée, c'est une petite armée entièrement indépendante. C'est-à-dire que tu as de la cavalerie, de l'artillerie, de l'infanterie, en petite unité, mais qui est capable de tenir tête à une autre armée le temps que l'autre vienne la secourir ou voir l'épauler. Et voilà, et ça, c'était une grande innovation chez Bonaparte. Ça n'existait pas avant. Avant, les armées se déplaçaient quasiment en bloc. Et voilà, c'est ce qui a fait le succès. Il y a aussi le succès, comme j'ai dit une fois, c'est la position centrale. Il était toujours au centre du dispositif. C'est-à-dire qu'il avait ses armées qui étaient éclatées, qui étaient éclatées sur un territoire. Et lui, il était au centre avec sa garde, la garde impériale. Et il agissait en fonction, on va dire, du besoin du front de l'Est ou de l'Ouest sur un petit territoire, évidemment. On ne parle pas à l'échelle européenne. Et voilà, et c'est ce qui a fait, on va dire, la force de la grande armée. Et il faut savoir une chose, c'est que quand Napoléon se déplaçait en personne et qu'en face, ils étaient au courant, il y avait notamment sur la dernière campagne de France, la consigne était d'évacuer le champ de bataille. Évacuer le champ de bataille. Là, les armées reculaient. Ouais. Parce que Bonaparte, pour eux, même s'il y avait 20 000 hommes, ils en comptaient 40 000. Ils estimaient qu'il y avait 40 000 hommes en face. C'est pour te dire un petit peu l'impact qu'avait cet empereur sur son armée qui l'aurait suivi jusqu'en enfer. Sauf à la fin, attention, je mets des nuances. Hein. Sauf à la fin, après la campagne des 100 jours. Alors, pour revenir à Joachim Phoenix, donc décidément, donc, mettre en scène Napoléon, on n'a pas été du tout de tout repos pour le réalisateur Ridley Scott. Hein. Après avoir relevé ses difficultés sur la construction du personnage de Joséphine, le grand amour de l'empereur, le cinéaste évoque cette fois les doutes de Joachim Phoenix. Dans un entretien accordé au magazine Empire, le metteur en scène a confié que l'acteur oscarisé pour Joker était venu le voir 2 semaines avant le tournage, presque en panique. Et comme il nous dit, Joachim Phoenix est venu me voir, il m'a lancé « Je ne sais pas quoi faire ». Je lui ai répondu « Attends quoi ? Oh mon Dieu, ok, viens t'asseoir ». Et on s'est assis pendant 10 jours, on a passé du temps à éplucher les scénarios, scène après scène. D'une certaine manière, c'est comme si nous répétions, nous avions tout abordé dans les moindres détails, a expliqué Ridley Scott. Oui, Joachim Phoenix a franchement flippé. Il y a de quoi ?
Ben oui, parce que c'est
le rôle est énorme.
C'est un rôle qui repose sur ses épaules et pas trop droit à l'erreur, effectivement.
Voilà. Et un autre papier assez intéressant aussi. Alors c'est un petit message que j'envoie à Vanessa Kirby.
Ah oui.
Qui a dit la chose suivante. Alors c'est là que
c'est la tuile.
On s'est dit, non, si on s'est dit hors antenne, oui, mais les Américains ont une vision assez romantique et hollywoodienne de l'histoire européenne. Alors j'ai pas dire l'histoire de France, mais et souvent ils sortent beaucoup de choses qui sont quand même inexactes, voire burlesques. J'en veux pour preuve ce que je vais dire. Vanessa Kirby a dit sur Napoléon. C'était véritablement un dictateur. Alors, c'est vrai en quelque sorte. On peut développer ça. Un criminel de guerre. Il ne fallait pas atténuer cet aspect, car cet homme a tué des centaines de millions d'hommes. Non, Vanessa. Si Bonaparte avait tué des centaines de millions d'hommes, l'Europe aurait été dépeuplée. De mon point de vue, sans raison, pourquoi a-t-il fait ça ? Pour avoir un empire ? Mais dans quel but ? À la fin, tout cela s'est désintégré. Sa psychologie était dangereuse, vraiment étrange. Et on essaye de faire ce portrait-là, a-t-elle conclu ? Ouh ! Non, Vanessa, ce n'est pas tout à fait comme ça. Ne pas oublier le code civil. Ne pas oublier Polytechnique et bien d'autres inventions de Napoléon. Oui, il était strict. Dictateur, oui, certainement. Il n'était pas gentil avec la presse. Ça, c'est vrai. Mais il faut se calmer et ouvrir des livres. Vanessa Kirby. Voilà. Je te fais un petit bisou quand même, je t'aime beaucoup.
Voilà, je lui enverrai ton téléphone si jamais elle veut te contacter. Là, on va revenir, évidemment, après cette séquence hommage.
Non, hommage, oui.
On aura l'occasion de développer avec Napoléon.
On va parler de Stallone, évidemment, qui est mon personnage. Évidemment, grosse carrière.
Voilà.
Grosse carrière.
Qui a galéré, hein, au départ. Enfin, qui a galéré, qui a fait plein de choses. Hein.
Oui, oui, qui a galéré beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il est acteur, scénariste, producteur. Hein. C'est un acteur américain né le 6 juillet 1946 à New York, ce qui nous fait un jeune homme de 77 ans.
Oui, il est bien.
Mais quand même, hein. Il joue encore du flingue, du gros bras, enfin tu vois, il fait péter des hélicoptères, enfin, tu vois, comment ces vertes années. Tu es extraordinaire, Sylvestre. Donc c'est 53 années de carrière, 117 films,
117,
5 prix. Ouais. 5 prix, et là j'étais surpris au niveau des prix. Au niveau des prix, il y en a 3, ça s'appelle du Razzie Awards. Mais c'est pas pour donner des bons points. Hein. En 89, il a reçu le Radio Award du pire acteur pour Rambo 3. C'est ça le Radio Awards. En 92, il a reçu le César d'honneur. Ça, c'est gentil. En 95, il reçoit encore un Radio Awards pour le pire couple à l'écran, pour L'Expert. En 2016, pareil, il s'en rechoppe un Radio Awards pour le prix du repentant. En 2016, enfin, il reçoit quand même le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle. Pour Creed, ouf, on se rattrape. Deep, c'est pas grave. Ils n'ont pas été gentils avec lui. Alors on va parler évidemment de sa filmographie. Alors évidemment 117 films c'est beaucoup.
Ouais,
beaucoup
il y en a eu pas mal. Hein,
alors, évidemment je vais vous en citer quand même quelques-uns on va dire qui ont plutôt marqué sa carrière. Bon, alors il apparaît pour la première fois en 1970, c'est là où il fera ses
débuts, mais alors, c'était pas forcément... Début,
voilà. Alors non, quand même, le début s'appelle Lune de miel aux orties de G. Edwards avec Béatrice Arthur et Bonnie Bedelia.
J'imagine.
70, c'est Les Talons Italiens, donc le film érotique de Morton Lewis avec Arietta Holm et Frank Michelli. En 76, 6 ans plus tard, donc Rocky va arriver. Évidemment, il y aura d'autres films qui vont pas marcher du tout. Rocky, donc de John Avildsen avec Taylor Shower et Burt Young. Rocky 2 arrivera 3 ans plus tard, 79, Rocky 2. Et Rocky 3 en 82.
Ah oui, il y avait un film hyper important, mon cher Pascal.
Il y en a plein, hein, j'en ai fait plein, vas-y.
Qui a commencé, je crois que c'était dans les années 80, Les Faucons de la Nuit, porté par Sylvester Stallone, avec Al Pacino, sur Serpico.
Ah!
Le flic américain.
Oui, ça me dit quelque chose.
Ouais, c'est
Serpico.
Oui, c'était Les Faucons de la Nuit, ah. Avec notamment, c'était Sylvester Stallone et puis Al Pacino, qui étaient les deux compères policiers. C'était, fin 70-80. Voilà, un film. Alors, j'ai le DVD à la maison, hein. Ça
d'accord.
A très mal vieilli.
Et oui, c'est des films, les années 70-80, évidemment, qui appartiennent vraiment à leur époque.
Ouais.
82, moi j'étais bloqué sur les Rambo et les Rocky évidemment, hein, pour que tout le monde s'y retrouve. Mais si t'en as d'autres, vas-y, hein, envoie.
Ah, ouais, je t'en prie.
Donc 82, donc Rambo de Ted Koch avec Richard Corina et Brian Donnelly. 85, Rocky 4 de Sylvester Stallone avec Talia Shire et Burt Young. D'ailleurs, Talia Shire, je me demande si c'est pas Adrienne. Il me semble que c'est Adrienne dans le film.
Ouais.
Adrienne, ça dit quelque chose?
Ah oui,
ah oui, tout le monde s'en souvient, putain. Évidemment.
Avec le visage.
Adrienne. En 85, Rambo 2, La Mission de George Pan Kosnatos avec Richard Grina. En 88, Rambo 3 de Peter McDonald pardon, avec Richard Grina et Marc De Jong. Alors, Richard McGrina, c'est le colonel.
Ah oui.
Et le colonel.
C'est très important.
1990, Rocky 5 de John G. Avildsen avec Talia Shire et Burt Young. En 93, Demolition Man de Marco Brambilla avec Wesley Snipes et Sandra Bullock. Ça, c'est quelques films parmi tant d'autres. Hein.
Et surtout une voix française.
Alors évidemment.
Et oui, parce qu'il y a l'acteur français qui double la voix
super grave.
La fameuse voix de nos collègues de Skyrock à l'époque. Ça a été la billage antenne de radio de Skyrock dans les années 90.
Ouais.
C'est bien sûr Alain Dorval qui fait la voix grave de Sylvester Stallone.
Étonnant. Et évidemment qu'il avait une voix pour faire de la radio. Je parle de Alain Dorval.
Ah oui, mais c'est sûr.
Parce que la voix de Stallone, j'ai pas trop fait gaffe, franchement.
Ouais.
Mais le doublure, bien sûr.
Excellent.
Unique.
Une voix
unique.
Exceptionnelle.
Oui, une voix unique. Voilà un petit peu pour quelques films. Après, si t'as un anecdote qui te marque.
Oh, c'est déjà pas mal. Hein.
Au pire, j'ai fait la liste. Regarde, regarde, de tous les films de Stallone, regarde ça.
Ah ouais, ça fait plusieurs pages.
Ouais, voyons, t'as Cobra en 86.
Cobra.
Il y en a plein d'autres.
Excellent film.
On y passerait des heures. Donc, ça, c'était pour sa biographie.
Alors Stallone, ça, que fais-tu?
C'est une filmographie.
D'où viens-tu?
La biographie de Stallone.
Important.
D'où viens-tu? Alors il vient de Philadelphie.
Et ouais.
Une ville dure. Installé dans un quartier tranquille de la banlieue de Philadelphie, Sylvester Stallone se passionne pour la culture physique dès ses 12 ans.
Alors je crois qu'il a eu un petit problème de santé tout à fait au début.
Ah.
C'est pour ça qu'il a...
Il a une paralysie faciale.
Oui, exact. Ouais.
Partielle. Partiel.
Je crois que c'est à l'âge de 8 ans ou même
avant. Ah oui. Ce qui lui donne un peu cette espèce d'air poker face, tu sais.
Ouais,
c'est pas quelqu'un que tu vas voir rire avec les toutes dents
déployées.
C'était
un petit peu les guignols de l'info, tu te rappelles, les marionnettes là.
Oui. Ouais.
Ils avaient vachement insisté sur le trait de Stallone.
Ouais. Oui. Et d'ailleurs, j'ai vu sa photo encore dernièrement qui a été actualisée sur certains sites de cinéma. Ça s'accentue, c'est-à-dire que tu le vois vraiment. En plus, il est un peu joufflard, tu vois.
Ouais,
et donc, du coup, tu le vois. Hein.
Ouais,
tu vois vraiment là.
Ouais.
Donc, il se passionne donc pour la culture physique dès ses 12 ans. Il s'intéresse également à la comédie. tenant ses premiers rôles dans la troupe du lycée local, mais décide de privilégier le sport avant d'être envoyé au collège américain de Genève pour y enseigner la gymnastique. À son retour aux États-Unis, le jeune homme écume les castings. Il finit par devenir en 70 la vedette d'un film érotique, L'étalon italien. Et ça, c'est une appellation qui ne va pas le lâcher dans tous ses films.
Ouais.
Parce qu'il se rappelle comme ça dans les Rocky. L'étalon italien. Et c'est un hommage à ce film des années 70. Alors, au début, alors, évidemment, personne n'a capté quand le film est sorti.
Ah, tu m'étonnes.
Moi, j'ai bien
rigolé. Quand, fait des recherches.
Quand j'ai fait le papier, j'ai bien rigolé. C'est là que j'ai compris le truc.
Moi, je ne savais pas.
Donc, à son retour aux États-Unis, le jeune homme il finit par intervenir dans la vedette d'un film érotique, dans L'étalon italien, puis figurant dans Bananas en 71 de Woody Allen. Après quelques tentatives télévisuelles, le comédien se spécialise dans les rôles de voyous, comme dans Les mains dans les poches en 74, Adieu ma Jolie en 75, La course à la mort de l'an 2000. Lassé d'attendre le rôle de sa vie, Sylvester Stallone écrit l'histoire d'un boxeur parti de rien qui concrétise ses rêves de champion. Si le script l'intéresse de nombreux studios, tous souhaitaient néanmoins qu'une star confirmée enfile les gants de boxe. Stallone leur tient tête et obtient finalement gain de cause. En 76, le destin de Rocky fait de l'acteur américain une superstar. Oui, il a eu du nez ce côté-là. Il a vraiment eu du nez.
Il a vraiment
évidemment,
il s'est battu
pour
hein,
le rôle.
S'est
évidemment,
battu,
hein. Qui d'autre pour
avec zéro
rôle-là
moyen, enfin, au très peu de moyens.
Ouais. Sylvester Stallone est nommé dans les catégories meilleur acteur et meilleur scénariste aux Oscars en 77. C'est pour ça qu'il débute sa carrière, même de scénariste, très tôt en 77. Hein. Tandis que le film est sacré meilleur film par l'Académie et connaîtra 4 autres épisodes, Rocky 2 en 79, Rocky 3 en 82, Rocky 4 en 85, Rocky 5 en 90. Dès lors, les projets de films se montrent sur son seul nom, comme le drame donc Fist en 78. Outre la saga Rocky, Sylvester est en 82 à l'affiche d'un nouveau film d'action qui le conforte dans son statut de star, le vétéran de la guerre du Vietnam, John G. Rambo, qui connaît deux autres opus, Rambo 2, La Mission et Rambo 3. Propulsé vedette du film d'action, l'acteur enchaîne les productions musclées et populaires, telles que Bras de Fer en 87, Tango et Cash en 89, ou Haute Sécurité, j'ai oublié celui-ci.
Ah oui.
Après un passage peu concluant à la comédie en 92 dans Arrête où ma mère va tirer, ouais effectivement, ou alors L'embrouillé dans le sac, il renoue avec le succès grâce à un catalogue de personnages valeureux, comme un secouriste de montagne dans C'est vrai, je l'ai vu celui-ci,
ah,
c'est bien aimé.
Excellent film.
Cliffhanger ouais. En 93, un policier dans Demolition Man ou un spécialiste en explosif dans L'expert en 94. Pareil, il va faire un peu de bruit avec celui-ci. En 96, Daylight marque un tournant dans la carrière du comédien doté d'un budget de 80 millions de dollars. Ce film catastrophe n'en apporte pas moins. N'en rapporte même pas la moitié sur le territoire américain. Sylvester Stallone revoit alors ses ambitions à la baisse et accepte un cachet, écoute bien, de 60 000 dollars contre 20 millions qu'il était en mesure de percevoir pour jouer un shérif atteint de surdité dans quel film en 97 ?
Copland.
Exactement.
Très bon film.
Et là,
avec d'excellents acteurs en plus.
Compte ouais, il casse son cachet pour un film qui va cartonner.
Ouais, ouais.
Et il a dû rager après, je pense. Un rôle qui sera salué par la critique. Malheureusement, dans les années 2000, si Sylvester Stallone fait à nouveau parler de lui, c'est en référence aux échecs successifs de Get Carter. Après, il repart dans la daube. Get Carter, Driven, Avenging Angelo ou encore Les Maîtres du Jeu. En 2002, le thriller compte à rebours mortel n'est même pas distribué aux États-Unis. Waouh ! Ça va plus. Mais le comédien s'est toujours usé de son charisme et faire preuve d'autodérision, comme en témoigne son apparition dans Clin d'œil dans Taxi 3. En 2003.
Ah, je ne savais pas.
Oui, monsieur, il y était. Et sa prestation caricaturale de Toy Master, dans Mission 3D Spy Kids en 2004. Après avoir animé l'émission de télé-réalité, alors c'est là tu vois qu'il plonge un petit peu dans le produit américain phare de l'époque, dans The Contender sur l'univers de la boxe, la star déchue parvient à 59 ans à remonter sur le ring pour les besoins de Rocky Balboa en 2007. Revigoré par ce succès soudain, Sylvester Stallone accepte, même sous la pression des studios, de revêtir une nouvelle fois le bandana de John Rambo pour un quatrième épisode qu'il souhaite plus sanglant que les précédents. Et oui, il l'a fait.
Et il est abonné aux séries de 4 films, lui.
Ouais, mais le film marche plutôt bien au box-office avec 113 millions de dollars de recettes mondiales. Ouais, ça passe cette fois-ci. Continuant sur sa lancée, il écrit et réalise Expendables, une été spéciale en 2010. Ça commence en 2010, hein. En 2022, on y est encore. Un film regroupant plusieurs têtes d'affiche incontournables du cinéma d'action d'aujourd'hui et d'hier. J'aime bien le hier. Tels Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Mickey Rourke, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger et bien sûr, Mr. Stallone himself qui tient le rôle principal. Véritable carton au box-office, une suite sort 2 ans plus tard, réalisée par Simon West cette fois-ci, et dans laquelle Stallone et sa bande sont rejoints par Chuck Norris, et oui, évidemment, Liam Hemsworth et Jean-Claude Van Damme, dans le rôle du méchant mémorable. Là encore, le film marche bien puisqu'il réalise 312 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 100 millions. Fort de sa réussite, Sylvester Stallone est en tête d'affiche de 2 autres longs métrages qui sortent en 2013, lesquels se soldent par un échec tant critique que commercial. Du plomb dans la tête lui permettant de tourner sous la houlette de Walter Hill, puis Évasion. Donc le film, un film de prison dans lequel il donne la réplique à un certain Arnold Schwarzenegger. L'année suivante, c'est un autre face-à-face terrible qui l'attend avec Robert De Niro cette fois dans la comédie de Box Match Retour. Toujours en 2014, c'est à Mel Gibson qu'il s'oppose dans le troisième volet très attendu des Infatigables, Expendables, logiquement intitulé Expendables 3, unité spéciale. Mais le succès au box-office est moindre que ses prédécesseurs. Oui, les gens s'essoufflent. C'est pour ça que le suspense est intense. Que va-t-il se passer au quatrième opus ? Sylvester Stallone donc, retrouve ensuite son personnage de Rocky Balboa dans Creed, où il entraîne le fils de son ancien rival Apollo, qui donne lieu à une suite en 2019 et une autre en 2023, dans laquelle Sly n'est pas. En 2023. Parallèlement, l'acteur retourne à l'univers carcéral pour la 5e fois, donc le John Rambo dans Rambo Last Blood. Cette fois-ci, il doit faire face au cartel de la drogue. Toujours actif, il campe pour Amazon Prime, un super-héros reprenant du service dans Le Samaritain. Il porte également la sympathique série de gangsters Tulsa King sur Paramount, avant de rejoindre une dernière fois les Expendables pour un 4e opus. Que de rebondissements, que de succès.
Quelle pêche!
Que de traverser du désert, mais il est toujours là, mine de rien, 77 ans. Je vais dire, Sylvestre, tu es toujours là, toujours en pleine forme, ouais, j'admire quelque part. Hein. Et voilà, c'est bien.
Parcours,
il fait preuve de ténacité, oui, parce que franchement, il s'est ramassé une paire de fois. Hein. Et en plus, au Hollywood, il tourne le dos en disant non, mais t'es plus, comme ils disent, bankable. T'es plus bankable.
Donc, et bien, Sylvester Stallone, qu'on verra sur les écrans.
La drôle et grosse carrière de Sylvester Stallone, mine de rien, 117 films, c'est pas rien. Et on lui en souhaite plein d'autres, moi j'espère.
Il a encore du temps, ouais.
Bien sûr. Après, il est scénariste aussi, ça ne l'empêche pas de continuer sur d'autres voies, sur d'autres étoiles filantes.
Et oui, c'est ça, exactement. En tout cas,
on lui envoie le bonjour.
Voilà, on lui envoie le bonjour. Oui. Et puis, s'il veut nous faire un petit cours de gym, on est bien sûr dispo, mon cher Pascal.
Absolument, surtout de culturisme, surtout avec moi.
C'est ça, avec les talons italiens.
Voilà. Non, je dirais pas ça. Ah, dis pas ça.
Ça y est, ça casse le mythe. Pascal, écoute, on arrive au terme de l'émission. En tout cas, merci pour cette nouvelle émission, 81e de Entracte. Et puis, je te laisse le mot de la fin, bien évidemment.
Et le mot de la fin, évidemment. Prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé. Écoutez Radio Grand Air. Venez voir Stallone. Sinon, il y en a plein d'autres films, évidemment. Et surtout, venez voir The Creator. Ouais, laissez-vous bercer un petit peu par
de jeunes acteurs.
Voilà, par ces films-là, donc qui sont, à mon avis, qui valent le coup de se déplacer. Ouais. Bonne semaine à tous. Et à toutes.
Et la semaine prochaine.
Et profitez du beau temps.